au-dessus de Touraine, elle passe ici. Voilà. Elle passe ici. Vous voyez ? Alors, on peut admettre, mais on n'est pas obligé, on peut admettre que ses clients, eh bien, ils étaient pratiquement dans ce qui est ensuite devenu la vicomté de Touraine. Et que Luther a réussi à forager, peut-être dans cette région, vous voyez, parce que ça c'était une zone où il y a quand même des prés, des champs, c'est assez riche, du côté de Messac, Beaulieu, etc. Il a pu forager aussi du côté de Gignac, Cuisance, parce que là on a trouvé tout un trésor de pièces qui lui appartenaient. Bref, il a pu essayer de ravitailler le puits dissolu à partir de toute cette région. Il faut bien quand même que ses clients, ils aient eu un territoire. On ne peut pas les imaginer simplement dans leur forteresse et uniquement dans leur forteresse. On ne peut pas non plus les imaginer, selon la théorie de M. Montsamir, de l'autre côté de la Dordogne, tout simplement parce qu'il y a construit juste à côté du puits dissolu une petite église au Moyen-Âge qui s'appelle l'église Sainte-Radegonde. Et il se trouve que toutes les églises Sainte-Radegonde correspondent à des frontières. Tout simplement parce que le mot Radegonde a été mélangé avec le mot Rande-Icoranda, ou Egurande si vous préférez, et cette sainte, on a fini par la confondre avec une frontière, tout simplement. Donc, Sainte-Radegonde étant ici, les Opidani, les gens du puits dissolu, eh bien, ils devaient avoir pour frontière, tout simplement, la Dordogne. Et de l'autre côté de la Dordogne, eh bien, il y avait tout simplement des Cadurges. Voilà donc pour la situation du puits dissolu. Deuxième intérêt du puits dissolu, c'est quand même un carrefour de route. Parce que le sel qui venait de l'Atlantique, était emmené en bateau au moins jusqu'à Creys, quand c'est pas jusqu'au port de Sable qui se trouve ici. Autrement dit, il se trouvait, le puits dissolu, en plein dans une zone de débarquement du sel. Et ce sel, il était ensuite transporté en Limousin par le puits d'Arnac, il était transporté vers le poste de Brama, toujours par une route descendant du puits du port de Sable, voilà. Et puis, ça faisait du puits dissolu aussi un carrefour de route allant vers l'Auvergne et allant aussi vers la région de la Saint-Cruz. Autrement dit, ces Opidani, c'était peut-être en même temps des marchands de sel, peut-être en même temps des transporteurs de sel. Voilà donc pour cette période et pour cette, si vous voulez, hypothèse, parce que c'est une simple hypothèse, sur Uxellodunum, première capitale, si on peut dire, de la vicomté de Touraine. Et nous passons à sa vraie frontière, c'est-à-dire la frontière que l'on connaît à partir, on va dire, de 800 ou à peu près, à partir de l'époque des diocèses, lorsque les diocèses ont à peu près récupéré les territoires des anciens peuples gaulois. Et donc, cette frontière, elle est entre le Limousin, le Quercy et le Périgord. Et nous allons voir donc cette forêt qui sert de frontière et qui est une forêt appelée la forêt de Bels. Oui. Alors, en rouge, vous avez la frontière Quercy-Périgord-Limousin. Alors, la frontière du Périgord, elle est à peu près logique. Elle traverse, vous voyez, le territoire. Évidemment, elle sépare des gens qui sont tout à fait de même civilisation et de même culture, puisque ce sont des éleveurs de moutons, aussi bien à Nadaillac que à Chartrier ou à Estival. Elle traverse quand même toute cette zone en biais. Ensuite, alors elle oblique vers le sud. Il y a eu des discussions pour savoir si certaines régions du Quercy n'étaient pas en Périgord ou l'inverse. Bref, dans ce coin-là, c'est pas très net. Du côté maintenant Limousin, elle se met donc à traverser d'une façon très bizarre, le cos entre Estival, donc, d'un côté et Cressensac de l'autre. Ensuite, brutalement, elle part vers le sud, le long d'une ancienne route, voyez. Et puis, elle réoblique, elle longe, comme je vous le disais, le petit ruisseau de Valérac, et la voilà qui grimpe, bizarrement, sur les collines, entre Chauffour et puis, par exemple, Cavagnac, entre Saillac, zut.
Ça y est.
Entre Saillac, côté Corrèze, et puis, de l'autre côté, on va dire, par exemple, Cavagnac, ou Sarrazac, voilà. Elle est donc extrêmement bizarre. Elle est bizarre, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, ma première mention, si vous voulez, d'un site ancien se trouve dans le cartulaire de Beaulieu, donc on arrive au Moyen-Âge, et ce site ancien, c'est Sarrazac. Alors, Sarrazac est ici, et il est expliqué qu'il est proche du château de la forteresse de Casillac. Donc, nous sommes à peu près en 800. Vous voyez qu'ensuite, nous allons passer 800, l'année 800, où se trouve un comte du Quercy. Nous allons passer à Turenne. Et Turenne commence à être cité extrêmement tôt, puisqu'on le retrouve dès 778. On le retrouve attaqué par Pépin de Greff, qui était en lutte contre les seigneurs d'Aquitaine et le nommé Waifre, et qui était en train d'attaquer un certain nombre de ces forteresses. Et ces forteresses de Waifre, ce duc d'Aquitaine, le texte en latin les appelle des rocas, c'est-à-dire des roches, ou des speluncas, c'est-à-dire des grottes. Ça veut dire qu'à cette époque, aux alentours de 700-800, les Aquitains, lorsqu'ils étaient attaqués, eh bien, ils avaient coutume de se réfugier dans des grottes fortifiées, comme par exemple celle de la Dordogne, au-dessus des dans les falaises, ou bien encore sur des rocas. Alors une roca, c'est une roche. Par exemple, la roche Chalet, la roche Lambert, roche Chouard, et ainsi de suite. C'est une roche. La roche du coin, eh bien, c'est Turenne. Ça n'a pas besoin de s'appeler la roche Turenne. Ça s'appelle déjà Torena, ce qui a l'air de vouloir dire précisément une hauteur fortifiée en selle. Tor. La Tor, c'est la hauteur fortifiée. Donc, dès 700, on apprend que Turenne est attaquée. On ne sait pas qui en est le propriétaire, ou en tout cas, à l'époque, c'est difficile de dire le seigneur. Il semble qu'il se soit appelé Aganus ou Agan et qu'il ait été pris par Pépin de Greff. Comme il voulait être libéré, il a donné son fils en otage. Son fils s'appelait Lambert Agan et ce Lambert Agan va rester otage à la cour de Pépin de Greff jusqu'à l'arrivée de Charlemagne et même au-delà puisque il est encore vivant au temps de Louis le Pieux. Donc, ça le mène jusqu'en 720, vous voyez, en 820, pardon. Donc, entre 778 et 820, le chef de Turenne, le patron de Turenne, il est prisonnier à la cour du roi. Et maintenant, alors, j'en viens à la forêt. Alors, pourquoi d'abord on l'appelle la forêt de Bels? Bels, ça, c'est comme le mot Beauce, la Beauce, la région qui s'appelle la Beauce. Ça veut dire une steppe, c'est-à-dire une zone de prairie, mais très arborée, c'est-à-dire beaucoup d'arbres. C'est déjà, si vous voulez, une steppe qui est en train de passer à la forêt. Ou si vous préférez, une forêt qui est en train d'être défrichée et qui est en train de transformer en steppe. Alors c'est le cas de la Beauce, et c'est le cas de beaucoup de régions calcaires. Effectivement, cette forêt-là, elle est en pleine zone calcaire. Nous sommes sur le Cos et nous sommes devant une forêt qui est une forêt de chênes, de petits chênes, de hêtres. Et puis, lorsqu'il y a des combes, c'est-à-dire lorsqu'il y a des fonds d'argile qui tapissent les creux, des arbres un petit peu plus élevés. mais en principe sur les oreilles, sur les zones de bec, de poche, eh ben, c'est au contraire des arbres relativement petits. Et cette forêt, elle est immense, parce qu'elle a l'air de s'étendre à la fois sur les trois régions, et servir aussi de frontière, du coup, aux trois régions. Seulement, ça va contre mon hypothèse. Parce que si mon hypothèse, à savoir que toute cette région appartenait aux gens du Puy dissolu ou du Xélodunum qui se sont fait prendre leur territoire, ça devient plus douteux. En fait, effectivement, c'est une grande forêt frontière. Et elle est essentiellement frontière avec le Périgord. Alors, son centre se trouve dans la forêt à la limite de Turenne, de la commune de Turenne et de la commune de Nespoul, avec en fait plus de terre sur Nespoul que sur Turenne, et elle se trouve précisément dans ce coin bizarre, vous voyez, qui est l'endroit où la frontière change de direction. Alors vous allez me dire comment je le sais. Alors ça a été compliqué, parce que cette histoire de Bels, ça ne se trouve que dans des textes très anciens, des textes du XIIIe siècle, XIVe siècle. À ce moment-là, effectivement, vous avez par exemple un village qui a maintenant disparu, juste à côté d'un petit bout, d'un hameau qui s'appelle maintenant la Bouzonnie, un petit mât, donc, qui s'appelait Béguéjoul. Alors vous allez me dire, Béguéjoul, c'est pas Bels. Oui, mais il faut l'entendre prononcer par les gens du coin. Moi, je suis allé précisément à la Bouzonnie, il y a longtemps maintenant, que ça fait 60 ans, hein, ou presque. Et il y avait là un très vieux monsieur qui avait 95 ans. Et ce monsieur, j'essayais de lui faire prononcer les noms des endroits de la forêt pour avoir la vraie prononciation locale, pas la prononciation du dictionnaire. Alors je vais vous montrer sur la carte suivante ce que ça peut donner. Non, la suivante encore, excusez-moi. Voilà.
Non. En arrière, alors, non, c'était bon. Là, c'est bon.
Non, la suivante. Voilà. Ouais. Alors, voilà. Vous êtes dans le creux. Vous avez ici un village disparu, ici, qui s'appelait au Moyen-Âge Béguéjoul. B-E-G-U-E-J-O-U-L-S. Béguéjoul. Alors, Joul, il n'y a pas de problème, ça veut dire clairière. Et ça se retrouve, par exemple, à Chausse-Neige, qui veut dire la clairière des chênes. La clairière des chênes, ça paraît logique. Mais Béguéjoul, je me demandais ce que c'était. La clairière de quoi? La clairière de Bègue? Qui c'est Bègue? Et le monsieur de la Bouzonnie m'a éclairé. Je lui ai demandé comment il prononçait le nom de ce peuple, je ne sais pas comment on dit en occitan, qui s'appelle le Pec-Loup-Vielle. Le Pec-Loup-Vielle, ça veut dire le vieux sommet. C'est bizarre. Et je lui ai demandé comment il le prononçait. Alors, pour prononcer, il ne prononçait pas Pec. Il prononçait P. P. Par exemple, il y a un autre Pec dans le coin qui s'appelle Pépillet, qui est là. Il l'appelait le Pépillet. Mais il prononçait très vite le P. Alors donc, ça va me donner, au lieu de Pec, ça va me donner P. Et ensuite, je lui ai demandé comment il prononçait Vienne. Eh bien, il le prononçait Bèche. Vèche dans certains cas, et bêche dans d'autres cas. Autrement dit, il avait le P vèche, ou le P ou vèche. Alors ce mot vèche, ça me rapproche beaucoup de Béguéjoul. Parce que Béguéjoul, ça veut dire tout simplement la clairière de la forêt de Bels, tout simplement. Et du même coup, Fougère, Louvèche, ça ne va pas être le vieux Fougère, ça va être le Fougère de la forêt, tout simplement. Et Chausse-Neigeoul, Louvèche, pareil, qui s'appelle au Moyen-Âge Chausse-Neigeoul, Louvèche, et bien c'est tout simplement Chausse-Neige de la forêt. Et l'ensemble de ça, avec au milieu vraiment l'endroit qui semble vraiment sacré, puisque c'est le puits, puisque c'est la partie haute, eh bien, c'est tout simplement la forêt de Belse. Une forêt forcément celte, puisque le mot Belse est un mot celte, bien antérieur évidemment à l'arrivée des Romains. Et puis autour de cette forêt, eh bien, il y a évidemment tout un groupe de clairières, parce que c'est finalement une forêt très exploitée. Une forêt dans laquelle, alors on exploite non seulement le bois, mais aussi le calcaire, pour faire de la chaux, le fer, parce qu'il y a des nodules de fer et qu'on peut récupérer le fer. Bref, c'est une région très exploitée. Et donc en même temps, est-ce que c'est une frontière? Parce qu'un endroit qui est si exploité, un endroit aussi dans lequel il y a une forêt de limite de ce genre, est-ce que c'est vraiment une frontière entre des peuples? Est-ce que ce n'est pas simplement une forêt qui sert de limite, au Périgord bien sûr, mais qui n'est pas réellement une limite, en tout cas entre le Quercy et puis le Limousin? Oui. Et j'arrive alors aux derniers avatars, si on peut dire, de la forêt. Voilà la forêt telle qu'elle existe maintenant et telle qu'elle est traversée aussi par un certain nombre d'itinéraires. Et le plus ancien itinéraire, celui qui très probablement a été suivi par César au talon de l'Icterius, eh bien c'est cette grande ligne qui traverse la forêt en direction nord-sud, qui passe d'abord à l'hôpital qui passe d'abord à Jugène Nazareth, qui passe ensuite de l'autre côté à l'hôpital Saint-Jean, et qui traverse entre ces deux zones complètement la forêt. Alors ce que cet itinéraire a particulier, c'est d'abord qu'il est très droit. Alors vous allez me dire pourquoi il y a des endroits où ça tourne, eh bien où ça tourne comme ça. Eh bien c'est parce qu'il y a des combes et que c'est une route qui, évidemment, contourne les combes. Et puis il passe uniquement sur les parties hautes. Une deuxième caractéristique de cette route, c'est qu'elle ne traverse aucun ruisseau. Aucun ruisseau. C'est-à-dire que tous les ruisseaux de ce côté vont en direction de la Corrèze et de la Vézère. Tous les ruisseaux qui sont de ce côté descendent en direction de la Tourmente et ensuite descendent vers la Dordogne. Et puis pour finir, au-dessus, mais alors là, c'est bien au-dessus, ça va vers la Corrèze. Alors, ce que les seigneurs de Turenne ont découvert, lorsque, par exemple, au XIVe siècle, Agnew de la Tour est devenu vicomte de Turenne, au XVe siècle, pardon, eh bien, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils avaient une très belle forêt de chasse. Et leur problème, ça a été d'expulser de la forêt le plus de gens possible qui y habitaient, parce que c'était extrêmement habité. Il y avait des villages un peu partout. Dont ce fameux Pégajoul, qui a maintenant complètement disparu. Alors le seigneur de Turenne, Agnew de la Tour, va s'y prendre d'une manière tout à fait systématique. Il va déplacer la route primitive qui allait de Turenne à l'Espoul et qui passait par là. Il va la déplacer carrément vers le sud. Il va essayer de la faire passer ici, et beaucoup plus bas. C'est un essai. Ensuite, il va donner des grandes zones de la forêt à des bourgeois qui y établissent des sortes de domaines qu'on appelait des garennes. Et ces garennes, ce sont des parcs de chasse. C'est-à-dire que ça permet aussi de surveiller toute une zone, empêcher les paysans d'y rentrer et puis d'y chasser. C'est le cas de la grande forêt du monsieur qui habite la Blénie et qui est un grand bourgeois donc au XIVe, XVe siècle et qui s'installe là pour surveiller cette partie-là de la forêt. Ensuite, il vire carrément les paysans. C'est-à-dire que ceux de Béguéjoul ont été envoyés sans doute plus loin, soit à la Bouzonie, soit carrément à Bontemps, ou plus loin. Bref, il les a fait partir. Dans le nord, il a fait de même pour des villages qui se trouvaient ici. Vous voyez que là, il y a des routes qui y mènent, et ça mène à rien. Autrement dit, c'est d'anciens villages. Il y avait en particulier un village des Fontanilles, par ici, dans une combe, enfin, à côté d'une combe, complètement disparu. Il y avait aussi une maladie, c'est-à-dire un endroit où les pestiférés étaient installés. Et puis, il met ses propres serviteurs, il les met le long de la route, aussi pour surveiller la route. Parce que la route, ça va l'empêcher de chasser. C'est quand même une très grande route. Alors, à Trumière, il met carrément un seigneur. D'autre part, à Vénère, vous ne l'avez pas sur la carte, mais Vénère, c'est par là, il met son veneur. Un veneur, c'est un capitaine des chasses. Et enfin, à Russac, il a sa maison de chasse. Une très belle maison de chasse qui, d'ailleurs, existe encore en partie. Et donc, il va pouvoir chasser dans toute cette zone. Vous voyez ? Évidemment pas dans la partie sud, parce qu'il y a un peu trop de route, mais disons dans toute la partie nord. Et ainsi, la forêt va être petit à petit, elle va petit à petit revenir à la sauvagerie, au 15e, 16e siècle. Et puis, alors, va arriver la Révolution. Alors, cette forêt de Turenne va être, au moment de la Révolution, vendue en bien national et complètement partagée en tout petits lots. Et ces tout petits lots vont faire que la forêt va petit à petit disparaître. Et je vais vous montrer le dernier abattard, si on peut dire. Voilà ce qui reste donc en vert de la forêt, de la grande forêt, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire juste avant la Révolution. Vous voyez que ça commence à disparaître autour de Béguejoul, d'accord. Vous voyez, c'est encore écrit Béguez. Autrement dit, il y a encore un petit quelque chose à cet endroit-là. Ensuite, vers l'Espoule, il reste seulement des lambeaux. Et ensuite, quand on va vers Ferrières, Chartrier, eh bien, ça devient à ce moment-là de tout petits morceaux. Et cette forêt, voilà. Ces derniers lambeaux, c'est du côté de la Baisse, voilà, du côté de cette zone-là. Et puis maintenant, la nouvelle frontière, ou du moins cette frontière, donc Quercy. Quercy-Limousin, qui se trouve un peu bizarrement dans cette zone. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.